Salut, je suis Léna Thébault, bienvenue dans le premier épisode de Gavé. Avec mes collègues de l'IUT de Lannion, on a réalisé une série radiophonique sur les éleveurs bretons et les éleveuses bretonnes à l'épreuve de la transition écologique.
Qui c'est qui aujourd'hui veut vouer sa vie entière à un métier?
Mais au final, comment je suis rémunérée pour ça? Et ça, c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde collectivement.
Gavé, on veut remettre en place le même schéma qu'il y a eu avec l'agriculture industrielle.
Ce système-là, il est terminé. Il faut vraiment, vraiment chacun s'unir pour qu'on avance.
Gavé. On se dit qu'on est peut-être la dernière génération d'agriculteurs ici.
Gavé.
C'est parti pour la première émission. On va s'intéresser à l'évolution du modèle agricole breton. Dans la première partie de l'interview, vous entendrez Thierry Coué, agriculteur et président de la FRSEA Bretagne. Il explique à la 15e minute que les agriculteurs arrivent à concilier leur travail avec le respect de l'environnement. Thomas Houette, géographe, abordera la transition écologique à la 20e minute. Et dans quelques instants, vous découvrirez une famille d'éleveurs. Mais d'abord, Lisa François, l'élevage industriel, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'élevage industriel, c'est un élevage axé sur un maximum de rendement. D'ailleurs, on le remarque à une forte densité d'animaux sur un espace réduit et à leur confinement. Leur alimentation est automatisée avec des machines. Les bêtes sont concentrées dans des bâtiments fermés, c'est l'élevage hors sol. Elles y sont notamment engraissées dans la période de temps la plus courte possible, c'est-à-dire de 3 à 4 mois, pour augmenter le rendement et la croissance des cultures. Des engrais et pesticides de synthèse sont utilisés.
Et une manière de moins polluer, c'est l'agroécologie.
Alors oui, l'agroécologie, c'est produire en tentant de polluer le moins possible. Cela passe par le changement des techniques de production, avec moins de chimie, moins de machines. Pour les animaux, c'est diminuer leur nombre, stopper l'élevage hors sol qui abîme les terres, pollue l'environnement comme l'air et les nappes phréatiques. Mais évidemment, on verra que ce n'est pas si simple de passer à ce type d'élevage moins polluant.
À présent, vous allez découvrir Louis Gélard, ancien éleveur porcin à Trévrec, près de Guingamp dans les Côtes d'Armor. Sa fille, Dominique Gauthier, a pris la relève et gère dorénavant la ferme familiale. En 1958, l'exploitation comptait 6 truies. Aujourd'hui, il y en a 600 et 16 000 porcelets naissent chaque année. Reportage de Julia Siriex et Léa Dubost.
Alors ici, on va mettre une autre paire. On rentre dans la partie vraiment pure de l'élevage. Nous, on met des surchaussures. Ici, c'est toutes les truies qui sont dans ces bâtiments-là, c'est des truies qui sont pleines. Et là, elles passent leur gestation. La gestation, ça dure 114 jours. Donc voilà, les cocottes. C'est ça. Hein, les filles ? C'est des groupes de 74 truies à peu près. Il y en a 4 groupes comme ça. Et il y en a 2 autres en maternité et un autre qui était à l'insémination la semaine dernière.
On est à 600 truies depuis que j'ai lâché à 65 ans. Et depuis, on n'a pas bougé.
Donc voilà les petits cochons.
Comment dire donc, par contre, la productivité patrouille a beaucoup progressé.
Quand papa est parti en retraite, il nous a légué un élevage qui était au top. Il nous a dit à l'époque, ben voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, maintenant vous pouvez rouler. Bon, depuis, on en a fait quand même pas mal. On a continué à garder l'outil en très bon état, dans la même idée d'évolution que papa a toujours eu pendant sa carrière.
Mais quand vous avez récupéré la ferme au tout début, c'était comment, au tout début, quand vous avez repris l'exploitation ?
Ben, déjà, je travaillais avec des chevaux. Après, on avait eu le premier tracteur, un pony des diesel. C'était une révolution. Et puis, on ne voulait pas emprunter. Je me rappelle qu'on avait acheté le tracteur, on avait pris de l'argent avec grand-mère qui nous avait dépanné. Après, il fallait la rembourser relativement vite.
Quand le tracteur est arrivé, petit à petit, ils se sont séparés des chevaux, donc de l'énergie animale, pour passer à une énergie fossile, quoi. Mmh. Et les terres ont pu être entièrement consacrées à la culture de céréales qui permettait de nourrir les animaux de la ferme.
J'avais envie de reprendre la ferme parce que j'avais un oncle qui était commerçant en grains. Et puis, c'était ma vision. Celui-là, il avait réussi.
Quand tu es rentré du service militaire, quand tu m'as souvent dit ça, tu es arrivé à la maison et tu t'es dit, il y avait tes parents, il y avait des gens qui travaillaient là, quoi, il y avait plein de monde sur la petite ferme, et tu t'es dit, c'est pas possible, on va pas pouvoir tous vivre comme ça, il va falloir faire quelque chose. Explique avec tes mots comment t'as vu ça.
Je me disais que pour faire vivre tout ça sur une petite ferme, je ne voyais pas.
Et donc là, tu as pris le taureau par les cornes et puis tu t'es dit, ben, il faut que je me bouge pour pouvoir développer mon affaire et pouvoir en vivre correctement. Mmh. C'était ça l'idée, quoi.
C'est mieux mais maintenant, parce que les conditions de travail ont évolué quand même. Moi, je me rappelle, j'ai le bras là qui ne va pas droit.
Au départ, l'alimentation n'était pas automatisée. Donc, tout se faisait à la main. Et donc, on arrivait dans une porcherie avec un chariot plein d'aliments et on donnait une pelle d'aliments à chaque animal. Et c'est vrai que manuellement, ça, c'était, pour les TMS, là, les troubles musculo-squelettiques, là, c'était terrible. Et papa, il a son bras qui ne va plus droit parce que bah, voilà, il a souffert de ça. Et aujourd'hui, toutes ces tâches pénibles sont automatisées. Ça a été une évolution majeure, l'automatisation de l'alimentation dans les élevages. Et papa a été initiateur en la matière. Ça, c'est une évolution carrément positive. Et aujourd'hui, notre métier consiste pour une bonne partie à observer nos animaux et en prendre soin, quoi. Tu vois, toute l'alimentation, c'est automatique. Il y a un ordinateur qui gère la ration de chacune. C'est quand elles mettent bas, par exemple, elles ont 2 kg le jour de la mise bas. Après, on monte à 3 kg, voilà. Alors, si on fait manuellement, c'est pas précis. Par contre, la machine, elle le fait très précisément. Donc ça, c'est top. Donc là, il y a une truie qui est en train de donner, qui va donner à boire, là.
Quand c'était nous qui étions en activité, pour moi, on n'était pas au top en truie, mais... comment dire donc, pour les engraissements, j'ai toujours renouvelé les bâtiments au fur et à mesure. De niveau technique, ils étaient bien.
Papa, ça a toujours été un passionné de bâtiments, dans le sens où il a toujours recherché à construire des bâtiments qui permettent aux animaux d'avoir le meilleur confort qui soit et que ça soit des bâtiments qui soient aussi rentables économiquement. Parce que pour pouvoir vivre de notre métier, il faut rechercher une rentabilité économique. Ça, par exemple, ce bâtiment-là, que c'est le plus vieux de la ferme, celui-là. Là. Donc ça a été fait en 1980. Et il avait un projet de bâtiment et il avait fait ses plans et tout ça. C'était un comme on faisait quoi à l'époque. Il est allé en voyage en Suisse et puis en Suisse il a vu des bâtiments construits en dur quoi. Ça, à l'époque on faisait plus du c'était des panneaux sandwich qui duraient beaucoup moins longtemps. En Suisse, il construisait des bâtiments en dur et puis des salles disposées différemment. Il est revenu, il a changé tous ses plans et puis voilà. Et ben, depuis 1980, donc ça va faire 40 ans, on travaille avec. Pour l'instant, on décide de ce qu'on fait Après, voilà, il y a une réglementation qui est en vigueur, donc on la suit. Donc, des fois, la réglementation nous oblige à des contraintes qu'on n'avait pas imaginées avant. Mais bon, on s'adapte. Et puis, voilà, quoi, l'élevage évolue et c'est normal. On sait que dans les années qui viennent, on attend des évolutions assez majeures sur la manière d'élever nos animaux. On cherche à essayer de s'adapter au mieux pour le bien-être de nos animaux. Et puis, on cherche aussi le bien-être des éleveurs, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. On s'adapte, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça a toujours été comme ça, hein, dans l'élevage. Hein.
On est obligé de s'adapter pour le consommateur. Il n'y a pas le choix, hein.
Quand je parlais des évolutions tout à l'heure à venir, c'est un sujet, la maternité, c'est les cases en liberté. Où la truie serait dans une cage au moment de la mise bas, et pendant les quelques jours qui suivent la mise bas, le temps de l'adaptation. Et après, on ouvre la cage de façon à ce qu'elle puisse marcher un peu plus. Le jour où on a des maternités à refaire, on passera en cage en liberté. Hein. C'est pas une obligation, mais on sent que c'est une demande sociétale. Intensif, industriel, voilà, c'est. Moi j'ai pas le sentiment de. Après voilà, on est catalogué comme ça, d'intensif, mais bon. Moi, on fait de l'élevage, quoi.
De l'élevage, oui, mais qui n'est pas sans conséquences. Léa Dubost, le secteur de l'élevage polluerait plus que celui des transports.
Eh bien, en fait, pas vraiment. Cette idée reçue vient de la comparaison de deux rapports. Celui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en 2013, qui dit que le secteur de l'élevage représente 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et celui du GIEC en 2015, qui estime que les transports représentent 13% des émissions de CO2. Seulement, les deux études ne se basent pas sur les mêmes critères. Les données sur l'élevage incluent les émissions de CO2 de l'élevage en lui-même, c'est-à-dire les émissions des ruminants et la gestion des déjections, mais aussi les émissions indirectes, comme celles liées au transport de nourriture pour le bétail. Le rapport du GIEC, quant à lui, n'inclut dans les 13% que les émissions directement liées au transport. Donc, pour comparer les deux secteurs avec le même critère, il faut se baser sur un chiffre du World Resource Institute. En 2005, un rapport a mesuré la pollution de l'élevage industriel seul, et ce secteur émet environ 5,4% des émissions de CO2. Donc non, le secteur de l'élevage seul n'émet pas plus que celui des transports seuls.
Et l'élevage a tout de même un poids important dans la pollution de l'eau, des sols et de l'air.
Exactement. Les effluents d'élevage, c'est-à-dire les matières fécales des animaux, sont une cause de la pollution de l'eau. À l'échelle régionale, la preuve la plus visible est la prolifération des algues vertes causées par les nitrates. Et concernant la pollution de l'air, la Bretagne est la première région française émettrice d'ammoniac selon Airbraise. C'est une pollution qui provient en majorité des exploitations agricoles et particulièrement des élevages de porcs.
Pour réagir avec nous en plateau, Thierry Coué, vous êtes agriculteur et président de la FRSEA Bretagne. Est-ce que les agriculteurs ont conscience de ces conséquences environnementales ?
Ça fait à peu près 30 ans, depuis 1994, que l'on a mis des plans successifs en place et que les agriculteurs, vous l'avez entendu dans le reportage, s'adaptent en permanence. Mais quand même, il faut rappeler l'histoire. L'histoire des algues vertes est un excès d'azote. L'agronomie, c'est un métier. L'élevage, c'est un métier. L'utilisation des effluents d'élevage ou des lisiers, des fumiers, etc., c'est de l'agronomie. C'est-à-dire la bonne utilisation de ces effluents permet une économie circulaire, c'est-à-dire que l'animal consomme des céréales. Ces céréales sont fertilisées par les déjections animales, etc. Lorsque l'équilibre est bon, l'équilibre agronomique, il n'y a aucun souci. Après, c'est dans la gestion que l'on fait de la communication qui s'est faite autour de ça. Mais on a relevé le défi puisqu'aujourd'hui, la qualité de l'eau ne cesse de s'améliorer en Bretagne. Il faut aussi le dire.
Donc aujourd'hui, les agriculteurs, ils arrivent à concilier leur métier avec le respect de l'environnement.
Mais évidemment, puisque de toute façon, les réglementations sont là pour, puisque, alors je vais être très technique, mais dans la politique agricole commune, à peu près la moitié des aides sont consacrées à l'environnement. Et donc, que ce soit sur l'air, l'eau, les sols, etc., tout ça fait partie d'un tout. Donc on est aussi, on touche les subsides européens à partir du moment où l'on a un cahier des charges strict sur la gestion de nos effluents et la gestion de nos élevages.
Alors également en plateau avec nous, Thomas Houette, vous êtes géographe et directeur de recherche au CNRS de Rennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Thierry Coué ?
On ne peut pas le contredire, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a aussi une conjonction de plusieurs choses, c'est-à-dire que durant la phase d'après-guerre où on a demandé à la Bretagne de nourrir la France et c'était indispensable, il y a eu une transformation des paysages agricoles qui ont amené aussi à de nouvelles pratiques. Donc il y a eu tout ce qui est mécanisation, remembrement, les lois rurales pour tout ce qui est transformation foncière, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dans les campagnes pour pouvoir avoir des structures qui puissent produire. Ce qu'on n'a pas été capable d'anticiper à l'époque, c'est effectivement les bons conseils en termes de pratiques agricoles. Il y a eu peut-être des choses dont on n'avait pas conscience à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si en mettre trop c'était bien ou mal. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on commence aussi à très clairement connaître le cycle de l'eau, le fait de savoir qu'une goutte de nitrate met entre 20 et 30 ans à arriver à l'exutoire. Donc du coup, la pollution qu'on a eue ces dernières années résulte de pratiques d'il y a 20 ans et ainsi de suite. Et donc du coup, l'amélioration prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, ça c'est des choses qui rentrent dans les mœurs, qui rentrent dans les savoirs. Donc c'est difficile de faire un rapprochement direct, mais la corrélation elle est claire. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque d'information pour éviter d'avoir à faire des choses comme ça. Je dirais que dans le reportage, moi ce qui me marque, c'est on s'adapte toujours à un contexte réglementaire. C'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas la PAC qui était là pour nous dire il faut aller plus dans telle direction ou telle autre, on aurait du mal à aller s'adapter, etc. Maintenant, les initiatives font je dirais la demande sociétale fait qu'effectivement on va vers plus de produits de qualité, vers de meilleures pratiques, etc. Et il y a effectivement l'émergence de pratiques qui vont dans ce sens, tout ce qui est l'émergence de l'agriculture biologique il y a 15-20 ans, en est une des preuves. Après on va aller vers encore un peu plus de technicité, d'agroécologie ou des choses comme ça, qui s'accompagnent non pas sur que l'élevage, hein, mais qui s'accompagnent aussi sur toutes les pratiques et la gestion du territoire qui est autour, quoi.
Donc il y a une meilleure connaissance du terrain de la part des éleveurs et une prise de conscience.
Assurément, et je pense qu'il y a eu énormément d'argent investi dans tout ce qui est les programmes Bretagne au pur, plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole, ou tous ces aspects-là y ont contribué. Je dirais, si jamais on devait faire notre autocritique en tant que recherche, en tant que chercheur, on n'est peut-être pas assez sollicité pour aller apporter de la connaissance sur ce qu'il faudrait faire ou éviter de faire, en tout cas à long terme. Voilà.
Thierry Coué, est-ce que les méthodes d'élevage sont en train de changer sur ces dernières années ?
Vous le voyez, alors il l'a dit, il y a la réglementation, mais en Bretagne, on a une particularité, c'est qu'en général, on a anticipé les réglementations, sauf sur ce fameux coup des nitrates où on s'est fait dépasser parce que la connaissance n'était pas là à l'époque. À l'époque, il faut quand même savoir qu'on nous demandait de produire, un. Deux, et pour la France, et pour tout le monde, et à pas cher. On est sorti de l'autarcie dans les années 60 pour aller vers l'exportation avec le maintien d'une population agricole qui était la volonté de la Bretagne, maintenir au pays un maximum de gens. Ensuite, vous me posez la question sur le bien-être. Alors oui, c'est une préoccupation énorme. Porcherie verte, par exemple, c'est un programme des années 80. Donc on a bien évolué sur l'aspect environnemental, l'aspect bien-être des animaux. On est sur des structures familiales encore en Bretagne, que ce soit en lait, en vache, dans toutes les productions. Et donc, c'est une agriculture qui repose sur une famille et des capitaux familiaux. Alors évidemment, on peut dire, oui, on va vers une agriculture industrielle. Regardez dans tous les pays qui nous environnent, simplement en Europe. Nous sommes les nains de jardin de l'Europe en termes de structure aujourd'hui d'élevage. Il faut avoir ça à l'idée.
Donc vous qualifiez l'élevage français de familial.
Ben évidemment. Évidemment. Lorsque je vais provoquer, mais lorsqu'on se scandalise sur les 1000 vaches, oui, on peut ne pas être d'accord, parce que là, on sortait des capitaux familiaux stricto sensu. Bon. Mais les 10 000 vaches, c'est ce qui se fait couramment en Allemagne. 10 000 vaches. Les 70 000 porcs en Chine sont des élevages courants aujourd'hui. Donc voilà, je ne dis pas que c'est la solution.
Alors Thomas Houet, vous aviez peut-être une petite réaction rapide.
Non, mais ce qui est important dans ce qui est dit, c'est qu'il y a effectivement une inertie qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on hérite d'une structure d'exploitation, on ne va pas la transformer du jour au lendemain. Et pour anticiper une transition écologique, on a cette inertie-là avec laquelle il faut faire. Je pense qu'aujourd'hui, la Bretagne, elle fait face à un virage et à une opportunité. C'est-à-dire, soit on choisit d'aller faire effectivement ce qui se fait à l'étranger pour faire le même modèle industriel, et auquel cas, là, c'est un choix aussi national de gouvernement, ou soit on peut très bien imaginer qu'on saisisse l'opportunité d'avoir des petites structures pour faire plus de choses différemment et qui sont vers plus de qualitatif avec sur lesquels on va faire des marches différentes. Et je dirais, les prospectives agricoles aujourd'hui, elles plaident pour le maintien de la biodiversité, pour la meilleure qualité de l'environnement, etc., vers le maintien de ces petites structures, pour aller vers plus de diversité, diversification. Je dirais, même pour être critique envers l'histoire bretonne, c'est que le fait d'avoir déjà des bassins de spécialisation porcine ou laitière, etc., ne favorise pas cette diversité dans les structures locales. Voilà, il faut faire avec. La seule chose, c'est maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut construire ensemble une nouvelle évolution, un nouveau modèle qui ne soit pas que centré sur des valeurs économiques, mais je pense qu'on est à cette phase de transformation, et voilà.
Alors, ouais. Je suis désolée, il faut qu'on avance dans l'émission. En 2018, la France a perdu 1,5 à 2% de ses chefs d'exploitation agricole, donc environ 4500 agriculteurs en moins par rapport à 2017. C'est ce qui ressort d'une étude de la Mutualité sociale agricole, mais c'est quand même l'un des secteurs qui génère le plus d'emplois en Bretagne, Léa Dubost.
En effet, 67 000 personnes sont employées dans des exploitations agricoles. En 2018, l'activité du secteur a fourni 4,1% des emplois bretons, ce qui ne paraît pas étonnant, étant donné que quasiment deux tiers du territoire régional est consacré à l'agriculture, selon la Chambre d'agriculture de Bretagne.
Oui, la Bretagne est quand même la première région en matière de production animale.
La Bretagne fournit plus du tiers de la production animale du pays. Juste quelques chiffres, un poulet français sur trois est produit en Bretagne et environ 56% du cheptel français de porc est élevé en Bretagne en 2017.
L'agroalimentaire est le premier secteur industriel breton. Thomas Houet, est-ce que c'est le système intensif qui a créé autant d'emplois ?
Je pense que je laisserai mon collègue l'évoquer, mais... Là encore, alors c'est parce que c'est pas mon domaine de compétence, clairement, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, la gestion de ces territoires-là implique automatiquement une forte main-d'œuvre. Alors, plus l'élevage va être productif, plus effectivement on aura encore besoin de main-d'œuvre. Moi, je dirais aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est la tendance que l'on observe à la diminution du nombre d'exploitations agricoles qui, de fait, obligatoirement vont emmener une augmentation de un agrandissement des structures d'exploitation agricole. Et cet agrandissement va s'accompagner par une augmentation des temps de gestion de leur territoire, une baisse du temps nécessaire à la gestion du bocage, des zones humides, de tout ce qui va être favorable à la biodiversité et à la qualité de l'environnement d'une façon générale. Et je dirais, la taille des exploitations au sens bâtiment d'élevage ou atelier spécifique, etc., est une façon aussi de diminuer ces temps de gestion. Donc là, on fait face à un gros défi qui va être de comment maintenir la démographie agricole et le salariat agricole de façon à pouvoir tendre vers un autre modèle de développement. Si on n'a pas les soutiens nécessaires pour ça, il est évident qu'on ne va pas aller vers un système qui va nous permettre d'aller vers une meilleure qualité de l'environnement.
Vous l'évoquiez tout à l'heure un petit peu, Thierry Couet, mais est-ce que c'est le plan de modernisation de la Bretagne qui a en partie participé à l'évolution du modèle agricole breton vers l'intensif ?
Attendez, là. Il faut quand même se resituer tout ça dans un contexte européen. Je vous ai dit tout à l'heure, le modèle breton, tel qu'on l'a présenté dans les années 50-60. Ce modèle breton a reposé sur des petites structures, a reposé sur la mise en place de coopératives, de CUMA, de coopératives d'utilisation de matériel agricole, enfin d'une socialisation complète de l'agriculture. Donc dire aujourd'hui que ce modèle est intensif, industriel, c'est quand même un comble, puisque c'était le modèle social, en fait, le plus accompagnant pour l'agriculteur. Après, lorsque l'on est sur tous les marchés, et la vocation de la Bretagne était, enfin je vous rappelle juste que la Bretagne est excentrée complètement, hein, on est plus près des États-Unis que parfois des pays de l'Est, donc vous voyez qu'on est à la pointe de l'Europe. Et donc on a vocation, de toute façon, à vendre les produits ailleurs. Si on consommait tout ce qu'on produit en Bretagne, vous voyez un peu l'obésité que l'on aurait. Mais le problème, il est sur la gestion. de cette production. Donc beaucoup d'emplois, beaucoup de développement économique et de produits sanitairement parfaits. Il faut quand même le dire, la Bretagne, sur le plan exigence sanitaire pour le consommateur, a répondu complètement à l'appel. Alors après, on peut discuter sur a-t-elle eu raison. Aujourd'hui, le modèle breton, c'est quoi? C'est un multimodèle. Il n'y a pas un modèle. Vous ne trouverez pas une exploitation porcine qui ressemble à sa voisine, ni une exploitation laitière qui pratique de la même façon que son voisin.
Est-ce que vous êtes d'accord, Thomas Ouette?
Là encore, je vais plus prendre du recul. C'est-à-dire qu'il y a eu un modèle d'évolution de la société, de l'économie bretonne après-guerre, qui a, grâce à cet accompagnement qui a été évoqué, amené à une transformation du territoire qui est importante. Aujourd'hui, on fait aussi face à des tendances extérieures, entre guillemets, ou démographiques, qui font qu'il y a eu tous les phénomènes d'urbanisation et de fuite des territoires agricoles qui... Je dirais, voilà, c'est malheureusement, on est rentré dans un cycle un peu différent où on a réussi à sortir la Bretagne de ce système complètement autarcique qui était évoqué, qui était complètement, presque arriéré, si on peut dire, à un modèle qui est victime de son succès presque. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, ça a engendré des conséquences auxquelles on s'était pas attendu et sur lesquelles ils ont été dépassés. On fait face à des nouveaux défis. Le problème, c'est que c'est un système qui a une très forte inertie. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut aussi être en mesure de se dégager de cette trajectoire dans laquelle on est pour pouvoir essayer de prendre un virage qui soit socialement acceptable et pour redorer aussi le blason de l'agriculture, qui est, à mon avis, une des images de marque de la Bretagne.
Et est-ce que tous les éleveurs ont suivi ce mouvement d'intensification de l'élevage ou d'augmentation du nombre de leurs bêtes?
Ce que je vous ai dit, on est complètement multimodal. Il n'y a pas un modèle en Bretagne, il y a des modèles. Mon élevage ne correspond pas à celui de mon voisin. Chacun s'est adapté selon ses compétences techniques, mais aussi son approche de l'animal. Aujourd'hui, on est l'une des premières régions bio. C'est-à-dire qu'on avance très vite sur le bio. On avance très vite sur les labels qu'on a longtemps ignorés parce qu'on était, nous, pour nourrir le bas peuple. C'était ça, la Bretagne. On alimentait à pas cher la France et l'Europe.
Et vous parlez de plusieurs modèles, ça concerne, enfin, quelle que soit la filière?
Il n'y a pas une filière, il y a des filières. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance à la diminution du nombre d'animaux, forcément, en Bretagne, contrairement à tous nos voisins. Hein, il faut aussi avoir ça à l'esprit, dans un contexte de développement de la population urbaine, de plus en plus, donc avec des demandes complètement différentes, des approches et une méconnaissance du monde agricole de plus en plus important. Donc il faut qu'on explique en permanence ce qu'on fait, qu'on accueille dans nos exploitations aussi, qu'on montre qu'on évolue en permanence. Juste vous donner un exemple, l'utilisation d'antibiotiques, moins 47%, alors qu'on devait atteindre les moins 25% à l'échelle de 2016. Voilà, je crois que c'était ça l'objectif, 2020. Et on a déjà dépassé l'objectif. Donc ça veut dire que, en gros, les éleveurs aujourd'hui sont prêts à faire énormément d'efforts, à condition que l'on prenne en compte l'ensemble des facteurs. Oui, la Bretagne n'est plus un modèle en tant que tel, standard, dit industriel, mais a une multifonctionnalité de son agriculture.
Merci à vous Thierry Coué et Thomas Ouette. Au prochain épisode, vous retrouverez Jean-Yvon Pratt, éleveur laitier à Ploirette dans les Côtes d'Armor. Voici un petit avant-goût.
Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce que on a 120 vaches et qu'on produit 1 million de litres de lait que c'est pas raisonné. Ça, c'est très important de se le dire. C'est pas parce que vous avez des robots de traite que vos vaches ne sortent plus, que tout est livré par semis avec des provenances de je ne sais où, c'est pas ça.
Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram à LPJ Lannion. Et si le sujet vous intéresse, jetez un œil au magazine Salami, 148 pages consacrées au porc breton sous toutes ses facettes. Merci pour votre écoute.